Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Campus Grenoble pour une nouvelle émission de Micro-ondes. Aujourd'hui, on va parler énergie nucléaire. Face aux promesses de renouvellement de la filière, quelles sont les stratégies et les mobilisations pour lutter contre le nucléaire en France? Pour en discuter, on est en compagnie de deux militantes et militants antinucléaires, Olive, qui se mobilise avec le collectif féministe des bombes atomiques. Bonjour Olive.
Bonjour.
Et Philippe Lambersens du réseau Sortir du nucléaire 38. Bonjour Philippe.
Bonjour.
À l'animation aujourd'hui, Claire Lee et moi-même Lou. Bonjour Claire Lee.
Bonjour.
Et à la technique, Samia et Jeanne, qui nous saluent de l'autre côté de la vitre. Merci à toutes et à tous pour votre participation et bien sûr à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Et ce matin, Nido Ragnel, vous nous dites qu'Emmanuel Macron va rouvrir le dossier de l'atome.
Absolument. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas s'exprimer avant la réalisation d'études approfondies sur le troisième réacteur, l'EPR de la centrale de Flamanville. Et donc, pour ne pas se renier, le président a cherché une parade. Et quoi de plus séduisant pour lui que des SMR, c'est-à-dire des mini-centrales nucléaires, moins contraignantes, moins gênantes, plus acceptables.
L'édito Éco, bonjour Dominique Seux. Un rapport publié hier fait le point sur les besoins en électricité de la France d'ici 2050.
Si on essaye de le résumer en une phrase, il estime principalement que la France aura techniquement beaucoup de mal à se passer du nucléaire.
Alors attention, alerte rouge. Hein. Selon vos informations, le président de la République s'apprête à lancer la construction de plusieurs EPR.
Oui, et ça sera dans les toutes prochaines semaines.
Le gouvernement d'Emmanuel Macron a donc pour objectif de relancer activement la filière nucléaire. Cela en annonçant prochainement la construction de 6 nouveaux EPR, mais aussi en promettant d'investir 1 milliard d'euros dans la recherche pour développer les SMR, des petits réacteurs nucléaires, prétendument moins coûteux et moins dangereux. On rappelle au passage que les EPR, ce sont des réacteurs nucléaires censés être plus performants, censés parce qu'on y reviendra, le seul en construction en France, c'est celui de Flamanville, et il cumule un retard de 11 ans, et son coût est passé d'une estimation à 3,4 milliards d'euros à 19 milliards d'euros. En pleine crise climatique et énergétique, le nucléaire suscite un regain d'intérêt, au prétexte qu'il s'agirait d'une énergie décarbonée, c'est-à-dire qui n'émettrait pas de gaz à effet de serre, une énergie bon marché et sûre. Qu'en est-il exactement? Deux membres de Micro-ondes ont mené l'enquête et sont allés demander son avis à Charlotte Mijon, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. En quelques mots, le réseau Sortir du nucléaire, c'est une fédération d'associations qui date de 1997 et qui a pour objectif de lutter pour la sortie du nucléaire en faisant des campagnes d'information, des actions juridiques, du plaidoyer et par ailleurs des pétitions, des manifestations. On écoute cette interview.
Le pays qui est le plus nucléarisé au monde par nombre d'habitants, il y a beaucoup à faire. On demande la fermeture des réacteurs vieillissants, sachant qu'une bonne partie du parc s'approche ou même a déjà atteint l'échéance des 40 ans de fonctionnement. Bien évidemment, on essaye aussi de s'opposer à la construction de nouveaux réacteurs, sachant qu'actuellement, le gouvernement et EDF ont dans les tuyaux un projet de 6 nouveaux réacteurs EPR dont 2 seraient en Vallée du Rhône, soit au Tricastin, soit au Bugey, sachant qu'en plus, récemment, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de développer des petits réacteurs modulaires. On va dire que c'est un peu un leurre. C'est une technologie qui n'existe que sur le papier, qui sera extrêmement chère, qui ne peut être mise en œuvre qu'à condition de qu'il y ait des commandes suffisamment importantes pour qu'on construise une usine pour permettre de les fabriquer. Donc, on n'est pas prêt de les voir sur le territoire. Sinon, bien évidemment, temps, on essaye aussi de se battre contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure. Parmi nos autres champs d'action, on est un petit peu moins présent, mais ça reste quand même un gros sujet. Ce sont les liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire, sachant qu'on est un pays qui détient quand même la bombe, qui a à l'origine d'ailleurs développé le nucléaire non pour produire de l'électricité mais pour se doter de l'arme nucléaire. Et même si la guerre froide est finie, la menace nucléaire elle reste là. Cet arsenal nucléaire, il ne représente pas seulement un risque s'il est utilisé, il représente aussi des risques et des nuisances même en n'étant pas utilisé, des pollutions, des risques liés à l'accumulation de matières radioactives. En fait, en 1945, quand le commissariat à l'énergie atomique a été créé, il n'était pas question de production d'électricité. Il y avait dès le début un pan recherche fondamentale et un pan dédié à l'armement, avec donc une volonté dès le début de se doter de la bombe. Pour donner une citation qui est très très explicite, l'un des pères de la bombe, le général Ayré, avait dit la phrase suivante: « J'ai toujours veillé à ce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire aillent de pair. Ce serait la mort du deuxième si le premier disparaissait. » C'est-à-dire qu'en fait, pour obtenir des substances qui peuvent être utilisées à des fins militaires, eh bien, il faut faire fonctionner certaines installations d'enrichissement. Il faut, si on souhaite du plutonium, séparer les différents éléments qui composent le combustible usé, parce que le plutonium n'existe pas dans la nature. Le plutonium est ce qui résulte de l'utilisation du combustible nucléaire. Donc en fait, de premiers réacteurs nucléaires ont été construits, notamment à Marcoule, à des fins présentées de recherche, puis ensuite à Chinon, par exemple, à des fins présentées de production d'électricité. Mais l'objectif était avant tout de permettre de disposer de matières qui puissent être utilisées pour la bombe. Comme je le disais, si la France a fait le choix, par exemple, du retraitement du combustible nucléaire, qui n'est pas un recyclage comme son nom pourrait le laisser penser, c'est parce que cette opération permet d'extraire du plutonium du combustible nucléaire usé, plutonium qui est ensuite utilisé dans les bombes. La question des déchets, elle est très complexe. Déjà, je vais dézoomer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à n'appeler déchets que certaines matières nucléaires afin de ne pas avoir à créer de filières pour gérer certaines substances qui mériteraient d'être considérées comme des déchets radioactifs. Par exemple, les déchets issus de l'extraction de l'uranium, enfin, tout ce qui est stérile, les résidus miniers qui polluent les eaux notamment, qui répandent des poussières radioactives, dont on a des exemples notamment dans le Limousin ou en Saône-et-Loire où on a des routes qui ont été remblayées avec des stériles radioactifs et qui crachent beaucoup de radioactivité, cela mériterait d'être appelé déchets. Mais en France, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on utilise du combustible nucléaire dans un réacteur, en France, on envoie ce combustible nucléaire usé à l'usine Orano de La Hague. Ce combustible est entre guillemets retraité, c'est-à-dire qu'on sépare les différents éléments qui le composent. Soit dit en passant, c'est une opération qui est extrêmement polluante, qui engendre des rejets liquides qui sont très 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 importants, dont on retrouve encore des traces sur les côtes scandinaves, voire danoises. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, on a beaucoup parlé de l'eau qui radioactive qui est collectée à Fukushima et qu'il est question de rejeter dans l'océan. Ce qu'on s'apprête à rejeter dans l'océan à Fukushima, et ce qui suscite des oppositions tout à fait légitimes, eh bien, c'est l'équivalent de ce que, en un mois, l'usine Orano de La Hague rejette dans l'Atlantique Nord. Alors, bien sûr, l'implantation de l'usine ne s'est pas faite au hasard. C'est donc sur le cap de La Hague qui est très, très isolé. Il y a un courant, le Rat Blanchard, qui est très, très puissant, qui éloigne tout ça des côtes françaises. Donc, cette opération est extrêmement polluante. Elle est aussi très, très coûteuse. Donc, quand on vous dit que le combustible nucléaire est recyclable à 96%, quelque chose comme ça, c'est de la com. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qui est effectivement recyclé. Et en fait, il n'y en a qu'une très très faible partie qui est réutilisée. Donc ces quantités-là de déchets, elles s'accumulent, cet uranium, il s'accumule. On se retrouve avec principalement trois substances. D'une part, cet uranium issu du retraitement, dont seule une partie est effectivement réutilisée et le reste s'accumule. Le plutonium, qui donc quelques pourcents du combustible usé, qui s'accumule également, dont une partie sert à l'armement, une petite partie sert à la fabrication de combustible, dit combustible MOX. Mais en tout cas, il y a des accumulations de quantités de ce plutonium qui n'ont plus de sens, en fait, par rapport aux besoins effectifs et qui mettent d'ailleurs notre pays en danger parce que lorsqu'on stocke sur un site comme celui de Lag des quantités aussi importantes d'un matériau aussi dangereux, rappelons qu'il suffit de quelques kilos de plutonium pour fabriquer une bombe. Et les derniers résidus, donc quelques pourcents, donc pour le coup, aucune utilisation n'est possible, ce sont ce qu'on appelle les produits de fission. Ce sont en fait les substances les plus dangereuses. C'est ce qui est rejeté en cas d'accident nucléaire. Et ces déchets-là sont coulés dans du verre. Et ce sont ces déchets-là qu'il est question, à terme, d'enfouir à Bure dans la Meuse. On se précipite pour faire ce projet malgré toutes les lacunes, alors qu'il serait grand temps de se dire « Allez, on se pose, on réfléchit, on commence par arrêter de produire ces déchets, par décider en tout cas qu'on arrête de les produire, et ça assainira le débat. » Et on pourra se poser pour voir ce qui est le plus approprié finalement pour gérer ces déchets, pour lesquels il ne pourra pas y avoir de bonnes solutions, il ne pourra y avoir que des solutions moins mauvaises que d'autres. Effectivement, un des arguments de l'industrie nucléaire, qui est un peu l'argument magique pour couper l'herbe sous le pied et se présenter comme vert, c'est le nucléaire émet peu de gaz à effet de serre. Le nucléaire décarboné, c'est un peu de la pensée magique. Je veux dire, il n'y a aucune activité humaine qui est décarbonée. Il y a des émissions de gaz à effet de serre à tous les bouts de la chaîne. Et même si, au final, ces émissions restent peu importantes, du même ordre de grandeur que les énergies renouvelables, quand on dit décarboné, il y a toujours un petit peu ce côté magique d'une technologie qui va arriver, qui va nous sauver. Dans un monde qui devient sans doute plus instable, plus dangereux, est-ce que c'est très pertinent de continuer avec une technologie qui est dangereuse, complexe, qui nécessite d'être surveillée comme l'huile sur le feu, qui demande des institutions qui reste stable, ce sur quoi malheureusement on ne peut pas tabler en fait. Le parc nucléaire actuel n'est pas éternel en fait. On ne peut pas prolonger indéfiniment, sans augmenter les risques, la durée de fonctionnement de nos réacteurs dont un certain nombre commence à être sacrément vieillissant. Ne serait-ce que parce que, comme je le disais, il y a des équipements qui ne peuvent pas être remplacés, ne peuvent pas être réparés et qui sont particulièrement sensibles au vieillissement, comme les cuves des réacteurs. Et surtout, la construction de nouveaux réacteurs face à l'urgence climatique, en fait, serait non seulement une impasse, mais aussi une faute, et j'ai envie de dire une faute impardonnable. Quand on sait qu'il nous faut réduire vraiment de moitié nos émissions, même pas dans les 10 ans à venir, dans les 9-10 ans, on ne peut pas se permettre, pour réduire nos émissions, de tabler sur la construction de nouveaux réacteurs et sur des chantiers qui vont être extrêmement lents, qui vont sans doute connaître beaucoup d'aléas, et pour une électricité, entre guillemets, décarbonée, qui au final arrivera bien trop tard. On a des exemples, notamment en France, avec le réacteur EPR en construction à Flamanville, chantier démarré en 2007, réacteur censé démarrer en 2012, au mieux, et je pense que personne n'y croit, il démarrera en 2023. C'est pareil partout dans le monde. En fait, on ne peut pas gagner cette course contre la montre avec une option aussi lente et qui comporte autant d'aléas. Et le nucléaire, c'est pas seulement lent, c'est aussi extrêmement cher. Dans le monde, depuis 2011, l'éolien coûte moins cher que le nucléaire, parce que le coût de l'éolien a baissé drastiquement, tandis que celui du nucléaire continuait d'augmenter, et ça a été autour du solaire aussi, en 2014. Actuellement, selon les calculs de la Cour des comptes, le mégawattheure produit par le réacteur EPR de Flamanville coûtera à peu près le double de ce que représentent actuellement les appels d'offres pour l'éolien. C'est-à-dire que on a une technologie qui d'ores et déjà est beaucoup plus chère, jusqu'à deux fois plus chère que les alternatives, avec un écart qui continue de se creuser. Et ça veut dire que non seulement ce serait une perte de temps de miser sur le nucléaire, mais ce serait aussi une perte d'argent. Parce que tout ce qui est investi dans le nucléaire n'ira pas dans les alternatives. Ce qu'il faut voir, c'est que ces alternatives, elles sont déployables beaucoup plus rapidement. Que ce soit le développement de parcs éoliens ou d'installations solaires, même si en France, on met un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues, ou encore, si on met en place un programme massif de rénovation ambitieuse des logements, eh bien, cela peut permettre de réaliser des gains extrêmement importants en termes de réduction d'émissions, de réduction de consommation. Mais malheureusement, les moyens qui sont mis à disposition sont insuffisants pour cela. Et il n'y a pas la volonté politique pour cela. La sobriété, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire reconsidérer nos besoins. Ça veut dire aussi, non seulement est-ce que je ne peux pas me passer de ci ou de ça, mais ça veut dire aussi est-ce que telle ou telle chose, je ne peux pas la partager, la mutualiser. C'est difficilement compatible avec l'obsolescence programmée pour racheter tout le temps la même chose, avec des logiques de mode pour susciter des envies d'achat tout le temps. Avec une logique individualiste aussi qui fait qu'on ne partage pas les équipements. La sobriété, ça ne veut pas dire on se prive, ça ne veut pas dire l'austérité, ça veut dire aussi on change de modèle. Et on change de regard sur le monde et on pense collectif, et on pense partage, et on pense réajustement. Et on redimensionne nos besoins et c'est aussi une redéfinition de ce qu'est le bien-vivre en fait. La sobriété, c'est essentiel. Qu'il ne faudrait pas non plus en faire une affaire strictement individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde à la fois l'empreinte écologique et les émissions d'une population, il n'y a finalement qu'une part définie et non majoritaire qui est liée au choix individuel des uns et des autres. Finalement, tant qu'on reste dans une société donnée, contrainte par certains choix au niveau infrastructure, eh bien, on continuera à consommer trop. La question, elle n'est pas seulement individuelle, elle est bien politique. Il y a des décisions à prendre pour les pouvoirs publics, par les pouvoirs publics, et il y a des décisions en termes de politique de sobriété.
Échouer une plateforme polluée et goudronner un océan. les mails, les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est la faillibilité totale. Le biscotte, 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 le biscotte. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à tout péter, à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
On vient d'écouter Les Centrales, une musique du chanteur français Castellemis, qui évoque donc les quelques risques inhérents aux centrales nucléaires. Et juste avant, on avait Charlotte Mijon, porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, qui répondait aux arguments des pro-nucléaires, y compris notre cher gouvernement. On va continuer à explorer les risques et les problèmes qui sont liés au nucléaire avec nos deux invités, donc Olive, qui est militante antinucléaire des bombes atomiques, et Philippe, qui est membre de SDN38. À chaque fois, je dis réseau, mais c'est SDN38, donc la branche locale du réseau Sortir du Nucléaire. Et donc, Philippe, tu as récemment participé à l'organisation d'une manifestation nationale pour protester contre le prolongement de la durée de vie des vieilles centrales françaises, comme celle du Bugey, avec 4 réacteurs de plus de 40 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des risques qui sont liés au prolongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires en France ?
Ben, je dirais, pour rappeler un youtubeur qui s'appelle Defecator, qui a fait un très beau reportage avec le titre « Le nucléaire, l'énergie du futur de ta grand-mère ». C'est-à-dire, c'est un peu l'âge que j'ai. Les centrales nucléaires, elles sont vieillissantes et ça, on s'en aperçoit pas. Peut-être que ma génération s'en aperçoit plus parce qu'elle les a vues pousser, sortir de terre dans les années 70. Mais elles ont quand même été conçues dans les années 60, construites dans les années 70-80. Et aujourd'hui, il y a 19 réacteurs sur 56 qui ont plus de 40 ans. Initialement, elles avaient été conçues entre 30 et 40 ans. Et puis, il y en a 50 qui ont plus de 30 ans. Donc, se pose la question de leur prolongation ou de leur fermeture ou de leur renouvellement. C'est ça, actuellement, dont on parle et qui va être un des enjeux des présidentielles. Mmh. Si jamais on avait la possibilité d'avoir notre mot à dire. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont plus dangereuses en vieillissant ? Tout le monde sait qu'il y a pu avoir une voiture, que plus elle vieillit, plus les problèmes arrivent et plus ça va coûter cher. Or, et notamment, il y a deux éléments dans les réacteurs nucléaires qui ne peuvent pas être changés. C'est la cuve en acier qui contient le réacteur et les combustibles, et c'est l'enceinte en béton qui contient la cuve et donc le combustible. Avec le vieillissement normal et en plus avec le vieillissement dû au flux neutronique, c'est-à-dire le bombardement ionisant des parois, ces cuves subissent des micro-fissures qui s'élargissent petit à petit, et un petit peu la même chose pour le béton. Mais ça, on ne peut pas le changer. Donc, on va mettre à grands frais beaucoup d'argent pour prolonger les vieux réacteurs sans véritablement assurer totalement la sécurité. Voilà l'enjeu des...
Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, prolonger du coup les vieux réacteurs ? Ça va être de mettre une espèce de sparadrap de béton sur les fissures pour renforcer, pour calfeutrer.
Il y a un peu de ça sur le béton, oui. Par exemple, au Bugey, donc la centrale la plus proche de Grenoble, plus proche de chez nous, il y a eu une sorte de film qui a été mis, mais qui semble poser des problèmes aussi. Oui, c'est vraiment du domaine du sparadrap. Et surtout qu'un certain nombre de ces cuves, par exemple, ont eu des irrégularités dès le début, mais qu'on a découvert relativement récemment, il y a un peu plus de 5 ans. C'était depuis le début, mais on ne s'en avait pas aperçu tout de suite. Et donc, ces irrégularités de conception dans le processus de forge, eh ben, ça va amplifier les risques.
Qu'est-ce que ça veut dire, des irrégularités dans la conception ?
C'est-à-dire, bon, là, on arrive dans des choses très plus complexes, techniques.
En essayant de faire simple, voilà. Du coup.
En essayant de faire simple. Moi, je ne suis pas un technicien là-dessus, mais je suis intéressé depuis 50 ans par le nucléaire. Donc, bon, c'est... Il y a des taux de carbone dans l'acier, il y a des effets de mesure de résistance et de résilience. Bon, de résistance au choc, de résistance, on pourrait dire un petit peu d'élasticité par rapport, dans la mesure où il y a des très fortes chaleurs, puisque c'est ça l'objectif, c'est une grosse bouilloire, un réacteur nucléaire, hein. Et quand c'est très chaud, il y a des réactivités dans l'acier, surtout s'il est fragilisé par ce vieillissement qui fait qu'il peut conduire à des ruptures. Mmh. Voilà.
Donc en fait, finalement, jusqu'à maintenant, on n'a pas tant vu le potentiel risque. Et c'est plutôt actuellement, 40 ans après, qu'on va commencer à percevoir vraiment les risques qu'on encourt avec le nucléaire, quelque part.
Certainement. Bon, enfin, il y a les Russes qui l'ont vu, le potentiel de risque. Il y a les Japonais qui l'ont vu, avec trois réacteurs qui ont pété. Les Américains, on l'a vu. En France, on a quand même eu deux fusions partielles de cœur, avec les centrales de Chinon, dans les années 60. Donc, quant à ma génération... On nous a vendu le nucléaire, il devait y avoir 1 million d'accidents graves par... je recommence tout.
Parce que 1 million, ça fait beaucoup quand même.
Non. C'est un accident sur 1 million d'années de fonctionnement de réacteur. Et les accidents dont je viens de vous parler, en fait, on arrive à le chiffre... J'essaie de me le retrouver.
Philippe est venu avec beaucoup, beaucoup de notes en studio. Donc là, il regarde, il consulte ses notes.
Je ne les retrouve plus là maintenant, mais enfin, c'est autour de 1200 années de fonctionnement réacteur. Ce qui fait que l'autorité de sûreté nucléaire, les trois directeurs qui se sont succédés depuis 2011, ont tous affirmé... de l'autorité de sûreté nucléaire, qu'un accident type Fukushima est possible en Europe. Mmh. Et quel est le pays le plus nucléarisé au monde ?
La France.
La France, d'accord.
Peut-être que tu peux nous rappeler, là tu viens de parler de l'autorité de sûreté nucléaire, ce que c'est que cette ASN pour les intimes ?
On va dire que c'est une avancée pour le contrôle du nucléaire, puisque quand ça a été lancé, il n'y avait que le commissariat à l'énergie atomique et EDF qui se auto-contrôlaient eux-mêmes. Quand l'ASN a été mise en place, c'est donc une autorité qui a un certain pouvoir pour pouvoir contrôler ce que fait EDF. Mais c'est un système qui marche essentiellement sur l'auto-déclaration, c'est-à-dire que quand EDF voit qu'il a un problème, il doit déclarer à l'ASN ce problème. La plupart du temps, il le déclare tardivement ou minimise, voilà. Et sur les choses importantes, comme justement celle de la cuve de l'EPR, on peut dire que le gendarme du nucléaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été très sympa, puisqu'il leur a dit « Ah !» oui, c'est problématique, cette cuve mal forgée par Creusot-Loire.
Creusot, c'est l'usine du Creusot, c'est là où
l'usine
on forge
du Creusot, Framatome. Ouais. Voilà. C'est quand même gênant. Pour pouvoir faire démarrer le réacteur, on va vous autoriser à le démarrer. Il n'a pas encore démarré, hein, je rappelle. Mais on vous autorisera, mais vous changerez bien le couvercle de la cuve en 2024. Parce que c'est le temps qu'il vous faut pour en forger une nouvelle. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est un suivi des impératifs économiques du nucléaire. Mmh. Voilà. C'est en ça que je dis que c'est un gendarme plutôt conciliant.
Plutôt sympathique pour le moment.
Et qui n'effectue pas de contrôle indépendant, régulier, quoi.
Si, il effectue des contrôles. On ne peut pas dire ce qui n'est pas. Mais sans suffisamment de moyens, et surtout sur l'autodéclaration du producteur EDF. C'est ça le...
Et s'il n'y a pas d'autodéclaration préalable ? Est-ce qu'il y a quelque chose, quand même, un organe de contrôle qui est prévu, régulier, en dehors de toute déclaration ?
Non. Bon, il peut y avoir, à l'occasion d'un certain nombre de contrôles, quand il y a des arrêts, ce qu'on appelle des arrêts de tranche, quand un réacteur est arrêté pour maintenance, hein, parce que tous les à peu près 3 ans, on va dire, on est obligé d'enlever le combustible, on en remet un nouveau. Et c'est le moment où ils en profitent, ben, c'est comme pour une voiture, de faire une vidange, on peut dire, un contrôle général. Et à ce moment-là, bon, les contrôleurs de la SN sont plus présents qu'à d'autres moments et voient un certain nombre de problèmes. C'est en ça que je dis que c'est une avancée, mais une avancée avec beaucoup de limites. Hein.
Peut-être que tu peux aussi nous parler du rôle des CLI. C'est comités locaux d'information, c'est ça ?
D'information, c'est ça, sur le nucléaire.
Ce sont des comités citoyens qui ont justement un espèce de...
Ben, si c'était citoyen... ce serait peut-être pas si mal que ça, mais les citoyens ont une toute petite part sur un siège pour écouter, pour la plupart du temps, les spécialistes, c'est-à-dire les producteurs, les directeurs de la centrale, expliquer leurs problèmes ou leurs projets. Hein. C'est une assemblée, tout ce qui est le plus consultative, qui se réunit quelquefois par an, et qui, des associations peuvent être présentes, mais il y a surtout le producteur, il y a la SN dedans, il y a les syndicats des travailleurs du nucléaire, les élus locaux, voilà, et deux, trois strapontins pour des associations qui arrivent à poser un certain nombre de questions quand... elles travaillent fortement et qu'elles ont la force de pouvoir poser la bonne question au bon moment. Et c'est rare que ça fasse émerger de vrais problèmes. Ça D'accord. arrive quelquefois, mais c'est
Donc
rare.
Elles ne jouent pas vraiment leur rôle, parce qu'initialement, le rôle des CLI, c'était de jouer un peu ce rôle de courroie entre les centrales et les citoyens pour informer justement des risques qu'il pouvait y avoir. Donc, pour toi, elles ne jouent pas vraiment ce rôle aujourd'hui, quoi. En tout cas, pas suffisamment.
Oui.
Est-ce que, je ne sais pas, Olive, si tu as une petite réaction aussi sur cette question des dangers, ou en tout cas, n'hésite pas à intervenir si tu as des choses à dire à ce sujet-là. Peut-être une question supplémentaire, parce que tu nous disais, oui, la centrale du Bugey, c'est celle qui est le plus proche de Grenoble. Mm-hmm. Elle est aussi très proche de Lyon.
Oui.
C'est aussi un argument qui est avancé par les militantes antinucléaires, de dire que finalement, les centrales aujourd'hui sont construites à côté de grosses métropoles. Et qu'en cas d'accident majeur, ça nécessiterait l'évacuation de milliers et milliers de personnes, quoi.
Oui, elles sont pas toutes à côté de Grande, mais il y a quand même Gravelines, qui est la plus grande au monde, à côté de Lille, donc le Bugey à côté de Lyon, le Blayais à 30 km aussi de Bordeaux, il y avait Fessenheim non loin de Strasbourg, et puis il y a Nogent-sur-Seine à côté de Paris, un peu moins proche, les autres étant plus éloignés. On a eu le soutien de Naoto Kan. Naoto Kan, pour notre demande de fermeture de la centrale du Bugey, Naoto Kan, c'était le premier ministre qui s'est retrouvé en charge de l'accident de Fukushima. Il nous a expliqué, il est venu à Grenoble en 2019, il nous a expliqué qu'il était benoîtement... pro-nucléaire. Bon, pour lui, il n'y avait pas de problème, c'était contrôlé, etc. Et puis, quand il s'est rendu compte qu'il fallait imaginer l'évacuation de Tokyo, pourtant à 250 km, pas à 30 km comme à Lyon, à 250 km de Fukushima, là, il a changé de bord et maintenant il parcourt un peu le monde et il milite au Japon pour l'arrêt du nucléaire. Lui, il dit les dieux étaient avec nous pour Fukushima. C'est sa façon de dire. On a eu beaucoup de chance. parce que les deux tiers de la radioactivité est partie vers l'océan, en fonction des vents. Mais quand on se trouve au Bugey, il y a des études qui ont été faites par l'Institut Biosphère, qui est suisse, sur un an, un accident, imaginons un accident nucléaire, tel jour, telle direction et force du vent, où est-ce que ça se disperse ? Eh ben, ça va de la Scandinavie au Maghreb, et évidemment dans toute la région. Ça ne reste pas dans les 20 km du PPI. Le nucléaire adore les sigles, comme oui. Ça, les PPI, les plans particuliers d'intervention.
Hein. C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est là où on distribue des pastilles d'iode. On n'en distribue pas tant que ça, vu qu'à peine un tiers des gens dans les zones autour ne viennent pas chercher leur pastille d'iode. Là où on fait des scénarios d'évacuation, où en général, il y a 10 personnes qui viennent pour faire l'exercice. Voilà. Hein. Alors, quand je rappelle qu'en Bugey, on est à 15 km de l'aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry, à 30 km de l'agglomération, 35 du centre même de Lyon, l'évacuation d'une région comme ça, bon.
C'est galère.
C'est galère, ouais.
Tu peux juste nous rappeler, parce qu'on en parle souvent, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de mythe, c'est pastille d'iode. Est-ce que tu peux nous rappeler juste l'utilisation et à quoi ça sert ?
Oh, la pastille d'iode, c'est très bien. Si on la prend 3 heures avant l'accident.
Ça sert à quoi ?
Voilà.
Si on la prend tous les jours.
Non, surtout pas, parce que vous pouvez être intolérant à l'iode. Quand il y a un accident majeur nucléaire, il y a une émission d'iode radioactif qui vient se fixer sur la thyroïde. Alors, un moyen, c'est un petit peu comme nos masques qu'on a, le geste barrière, on pourrait dire, c'est de saturer la thyroïde en iode. Mais ça, il faut le faire suffisamment avant. Mais si c'est 2-3 heures après avoir inhalé de l'iode radioactif, ça ne sert plus beaucoup. Et d'accord. Au bout de 2 jours, ça ne sert plus.
Donc, il faudrait anticiper toutes ces
voilà, catastrophes. Voilà, c'est ça. Et ça ne protège pas des autres éléments radioactifs, strontium, césium, etc.
Donc, merci pour ce panorama des catastrophes possibles liées au nucléaire. On accuse souvent les militants, militantes anti-nucléaires d'être un peu catastrophistes. Peut-être un autre dossier sur lequel, pour le coup, on est... Enfin, en tout cas, les militants... semble, alors je ne suis pas très objective, mais plutôt réaliste, c'est sur la gestion de la catastrophe en cours qui pourrait être celle des déchets. Et donc on a avec nous Olive, militante anti-nucléaire, membre des bombes atomiques. On en parlera plus de ce collectif dans une deuxième partie d'émission. Mais donc Olive, toi tu milites en particulier contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, qui est prévu à Bure, entre autres, puisque le projet en tout... s'étend sur plusieurs villes entre la Meuse et la Haute-Marne, donc l'est de la France pour les personnes qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le projet Cigéo, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est le projet Cigéo ?
Alors ouais, le projet Cigéo, c'est déjà c'est dans la Meuse, du coup c'est un endroit qui est quand même assez désert, où l'État du coup a choisi d'enfouir les déchets nucléaires les plus dangereux, tout à l'heure on l'a dit, sur les plus radioactifs. Du coup, près d'un tout petit village, il doit y avoir 80 habitants à Bure. Et voilà, donc les déchets les plus dangereux de France, d'Europe, à 500 mètres dans le sol. Et du coup, l'Indra donne beaucoup d'argent aux collectivités pour avoir des nouveaux bâtiments, pour rénover les trottoirs, les lampadaires, etc. Donc, pour aussi avoir l'acceptation des maires, etc. Et du coup, actuellement, il y a un laboratoire qui est là, qui existe, qu'on peut visiter, que les enfants dans les écoles peuvent visiter. Voilà, c'est une réussite encore technologique, etc. Et en fait, c'est un projet colossal. Ça coûte des millions d'euros. Il y a des hauts risques de contamination du sol. Et il y a une radioactivité qui serait présente pour des milliers d'années, une fois que les déchets seraient enfouis. Et il y a aussi toute la question de la transmission, de en fait, comment expliquer aux générations suivantes qu'en fait, il y a un danger potentiel dans le sol. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont assez présentes. Et l'autorisation aussi d'enterrer les déchets qui est toujours repoussée, ça fait que en fait, le projet il coûte toujours de plus en plus cher. C'est un peu comme les EPR, c'est qu'on ne s'en sort jamais. Et l'État, en fait, il prépare le terrain, même de façon illégale. Il y a eu, avec le défrichage du bois Le Jus, il y a quelques années. Et aussi une répression forte des militants. Enfin, peut-être qu'on en reparlera après.
Ouais.
Et du coup, ben, le nucléaire, c'est aussi... C'est pas juste l'enfouissement des déchets, c'est aussi plein d'industries qui sont autour, c'est le traitement des déchets, le nettoyage des objets, des vêtements contaminés, le transport, la recherche. Et en fait, tout ça, à chaque fois, ça a des coûts vraiment importants, financiers, écologiques.
Et actuellement, qu'est-ce qu'on en sait, en fait, de l'enfouissement des déchets ? Est-ce que... Il y a une petite distance qui permet de dire on a les moyens d'assurer tant d'années de que la radioactivité soit concentrée, enfin contrôlée en tout cas, je sais pas comment ça se passe vraiment. Est-ce que c'est dans des bidons hermétiques, mettons, ou dans de l'eau ou, Philippe, ou...
est-ce que tu veux répondre, Philippe, sur ce point?
Oui, les déchets, là, c'est les déchets les plus toxiques qui devraient être envoyés à Bure. Parce qu'autrement, il y en a de partout dans toute la France, des déchets. Il y en a plein la Hague, ça déborde la Hague, c'est au sommet du Cotentin en Normandie. Il y en a 15 tonnes de plutonium à Superphénix, au bord du Rhône, 60 km de Grenoble. Il y a 35 000 tonnes. De ciments qui contiennent du sodium radioactif aussi à Superphénix. Voilà. Bon. Donc à Bure, c'est les plus toxiques, ceux dont la période c'est à haute activité, à vie longue. Voilà. Les plus toxiques et qui vont durer plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'années, puisque le plutonium, par exemple, ne perd la moitié de sa radioactivité qu'en 240 000 ans. Donc là, c'est vraiment de la vie très longue. Là, ces déchets sont dans des fûts, soit en général vitrifiés et en acier par-dessus. Il y a un certain nombre de problèmes avec des plus anciens qui étaient dans des fûts bitumés, avec du bitume autour, pour essayer de contenir à la fois la radioactivité et la chaleur. Là-dessus, on s'est aperçu que en les mettant côte à côte, puisque ce sera ça, sous terre, même si c'est à 800 mètres de profondeur dans l'argile, il y a un risque potentiel de chaleur et qu'ils se mettent à brûler. Et que là, comme ça devrait être irréversible, on ne pourra pas aller les rechercher. Et que donc la radioactivité à 800 mètres, progressivement, risque de remonter.
Juste pour donner un petit chiffre, parce que vous parlez des déchets les plus dangereux, moi ce que j'avais retenu, c'est qu'il s'agit de 4 à 5% des déchets, avec cette question qu'il y a des choses qu'on ne considère pas comme des déchets et qui pourraient être reclassifiées en déchets, mais oui. Par contre que ça représente, parce que c'est souvent un argument qu'on nous dit, oui mais c'est pas beaucoup de déchets, blablabla, ça représente 99% de la radioactivité des déchets en France. Et peut-être pour... donc là, tu nous parles un peu des risques de ces déchets. Olive, juste avant, tu nous parlais du bois Le Jus, donc qui est un bois qui est menacé par ce projet. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Parce que c'est vrai qu'on on parle souvent des risques d'explosion, fusion, etc., etc., fusion du cœur, mais en fait, ça a aussi un impact direct sur l'environnement et notamment par l'appropriation de certaines terres. Et en l'occurrence, là, le bois Le Jus que je crois tu connais. Juste en quelques mots, est-ce que toi, tu y es déjà allé dans ce bois Le Jus et en quoi il est menacé ? Par quoi est-ce qu'il est menacé par le projet ?
J'ai pas les données.
T'as pas les données ?
C'est la zone où devrait ressortir tout l'air qui devra circuler ou ne plus circuler une fois que ce sera fermé. Voilà. Et donc, c'est à peu près à l'endroit où devrait ressortir éventuellement, plus particulièrement, la radioactivité, si elle doit ressortir un jour. Voilà. Bon.
OK, en quelques mots.
Voilà. Et ce bois Le Jus a été occupé par des militants très fortement mobilisés, concernés, pour pouvoir le garder. Et voilà. Moi, j'y suis allé, je l'ai visité et quand il était encore occupé par ces jeunes militants.
Ouais. On en reparlera ça en deuxième partie. Mmh. Oui, Clarly.
Oui, j'ai une dernière question. Sur ce projet de bure, est-ce que ça intervient à un moment où, en fait, il y a d'autres sites d'enfouissement qui débordent et donc, du coup, on a besoin d'un nouveau projet, ou est-ce qu'on externalisait ce traitement des déchets en payant, en fait, à l'étranger
Récemment, on a reparlé. On a reparlé de la Russie. C'est Greenpeace qui a relevé ça il y a quelques jours encore. Déjà en 2009, on avait su que la France envoyait de l'uranium de retraitement en Russie, au fin fond de la Sibérie. Bonjour les transports pour envoyer ça là-bas. Et puis finalement, ils avaient arrêté. On a vu qu'ils ont recommencé à en envoyer de l'uranium qui est stocké là-bas, qui pourrait, on ne sait pas très bien si ça pourra servir à la Russie, si on lui vend, ou au contraire, s'il nous le garde sous la main pour un jour que ça reserve. Voilà, ça c'est l'uranium de retraitement après passage, les vieux combustibles après passage à La Hague. Et puis il y a tout l'uranium appauvri, et lui il y en a, je crois, 320 000 tonnes aussi, qui n'est pas considéré comme un déchet, mais comme une matière valorisable si un jour on devait développer les surgénérateurs, ce qui fut Superphénix là à Malville, les surgénérateurs qui permettraient d'utiliser cet uranium appauvri. Puisque quand on reçoit de l'uranium, je crois que vous avez en parlé du Niger, du Kazakhstan, d'Australie ou du Canada, il faut ensuite le concentrer pour qu'il puisse produire une réaction de fission et donc de chaleur. Mais donc, il y a la plus grande partie reste, c'est de l'uranium appauvri. Voilà. Ça peut servir à faire des obus anti-chars aussi, ce qui a posé bien des problèmes en Yougoslavie et en Irak. Sur les populations, les gamins irakiens qui jouaient sur les chars, voilà, qui se chopaient de la radioactivité. Même chose pour les Yougoslaves aussi.
Super, pollution un peu partout. Mais effectivement, voilà. Aujourd'hui, rappelons-le, le projet CIGEO, c'est la seule solution, entre guillemets,
oui.
Parce que ça n'en est pas une, c'est ce que répètent à l'envi les militants antinucléaires, qui a été trouvé pour en faire quelque chose, quoi, ouais. De ces déchets-là.
Et pour rebondir sur ce que disait Olive, si ça a été décidé de le faire dans l'argile à Bure, c'est parce que c'est un vrai désert autour, il n'y a vraiment pas grand monde dans cette campagne et qu'il n'y a pas eu de réaction comme il y en a eu dans le Limousin, comme il y en a eu dans d'autres endroits, en Vendée, etc., dans le granit, etc.
Ouais, après ça, on en reparlera dans la deuxième partie, mais c'est un discours aussi que les militants et militantes de Bure essayent de contrer en rappelant qu'il y a eu quand même 20 ans de lutte à Bure, des manifestations, des mobilisations. Mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas eu l'ampleur d'autres régions, mais du coup on parlera de récentes mobilisations qui ont lieu à Bure. Peut-être juste un petit point d'actualité, parce qu'on en a... Alors c'est toujours difficile de dire on en a parlé récemment, parce que quand on a le nez dans cette actualité, on la voit un peu partout, mais récemment il y a eu une grosse actualité autour de Bure avec la déclaration d'utilité publique. Je ne sais pas si Olive ou Philippe, vous voulez en dire quelque chose.
Bah, ce que je peux en dire, c'est que c'est une mascarade, finalement. C'est quelque chose de faussement démocratique où, en fait, on va dire on va tenir compte de l'avis des habitants, de la population, alors qu'en fait, peu importe ce qu'on va dire, le projet sera fait dans tous les cas. C'est juste pour dire, regardez, on a présenté cette enquête, on l'a fait, et ça va juste cautionner le projet, quoi, en gros.
Parce que l'objectif, c'était de faire une enquête publique pour... avant de déclarer ou non, d'ailleurs, hein, on peut toujours espérer. Mais donc toi, Olive, t'es pas très optimiste, mais avant de déclarer ou non le projet d'enfouissement de déchets nucléaires, si j'ai d'utilité publique. Philippe, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, toutes les enquêtes d'utilité publique n'ont jamais permis d'arrêter ou de limiter le développement du nucléaire. C'est pour ça que slogan là, des militants de Bure, c'était « On n'est pas dupe, on n'est pas DAC ». Parce qu'après la déclaration d'utilité publique, il y aura la déclaration d'autorisation de construction.
Voilà, qui permettra donc d'ouvrir la porte à des travaux préalables.
Voilà.
Ok, bon bah panorama fantastique pour achever le tableau noir du nucléaire. Donc on peut parler aussi de l'extraction d'uranium, notamment au Niger, qui provoque des pollutions, des mises en danger de travailleurs et de travailleuses du nucléaire. Et pour ça, Claire Lee nous a préparé une petite intervention sur le sujet.
Oui, tout à fait. Effectivement, l'approvisionnement en uranium, les conditions et les conséquences de son extraction sont un peu des angles morts des discussions, des débats sur le nucléaire. C'est des questions qui sont rarement problématisées. Et c'est vrai que l'uranium, qui est importé en France, hein, qui est converti et enrichi en France, provient de trois pays. Donc le Kazakhstan, le Niger et le Canada. Et c'est vraiment au Kazakhstan et au Niger qu'Orano, donc c'est anciennement Areva, a ses plus gros sites miniers. Et puis il faut rappeler quand même que qu'Orano, c'est une entreprise publique en fait, où les capitaux sont majoritairement à l'État. Et donc on a aussi une raison valable de s'intéresser de près à ce qui s'y fait. Et dans le cas du Niger, en fait, c'est un cas qui est assez emblématique, me semble-t-il, de la France-Afrique, puisque les prospections en fait, d'uranium, elles datent des années 50. Donc elles ont été faites par le CEA dans le contexte, comme le disait la Charlotte Mijon, de l'armement nucléaire. Et au moment de l'indépendance, donc dans les années 60, en 1960, va se signer des accords de coopération et qui sont en fait des accords de relations très asymétriques entre l'État nigérien et la France concernant l'uranium. Donc actuellement, Orano, donc Areva, détient trois mines, donc à hauteur de 60% du capital contre 30% qui appartient à l'État nigérien. Et puis, donc il y a une mine qui est à ciel ouvert, Somaïr, une mine Kominak qui est une mine souterraine mais qui est fermée depuis le 31 mars 2021, et une mine Imouraren dont l'exploitation n'a pas encore commencé parce que Orano a déclaré que ce serait pas rentable actuellement vu que le cours de l'uranium était trop bas. Et cette question en fait, de partage des gains économiques, elle est encore brûlante, encore capitale aujourd'hui. Et même si en 2006, il y a eu une renégociation comme ça des accords où les redevances minières en fait, de la France vont s'aligner sur celles des concurrents parce qu'elle va passer de 5% à 12% des bénéfices. Mais bien que voilà, Orano s'est aussi engagé à faire des dépenses sur des infrastructures routières, notamment enfin, la route de l'uranium en tout cas qu'elle fréquente, elle a exclu tout de même de payer la TVA, ce qui représente à peu près 15 millions d'euros par an. Et donc, on assiste quand même à ce que Al-Mustapha El-Hassen, d'une association nigérienne Al-Green Man, donc en lutte contre justement tous les impacts sociaux et environnementaux des mines d'uranium, va nommer un pillage des ressources et qui s'accompagne également d'une pollution durable dont sont héritiers en fait les populations locales au Niger, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre qu'en fait, les déchets, ils ne sont pas uniquement au bout de chaîne, quoi. Ils sont bien avant, donc quand on va extraire de l'uranium, il y a toute une partie de ces minéraux qui ne vont pas être utilisables, mais qui contiennent de la radioactivité. Et au Niger, en fait, ils sont tous stockés à l'air libre, et donc il y a de la poussière, c'est un environnement qui est très venteux, donc en fait c'est très volatile, quoi. Et donc ça se répand à des kilomètres aux alentours de la mine, et notamment dans les villes qui ont un peu émergé au moment où la mine s'est développée pour héberger les travailleurs. Et donc c'est vrai qu'il y a eu, des analyses, et les poussières sont contaminées, il y a aussi beaucoup de matériaux qui sont recyclés en fait pour construire les habitations ou qui sont réutilisés dans la vie quotidienne par les habitants qui proviennent des mines, donc qui eux aussi sont contaminés. Et donc ce qui a été ça a été quand même quand même relatée puis très bien documentée, donc à la fois par l'association dont je vous parlais tout à l'heure, Harry Ginman, et en lien avec la CRIAD, donc, qui est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et les deux ensemble ont vraiment mené des relevés et qui sont un peu venus mettre Orano en porte-à-faux, qui disaient non, pas du tout, on respecte tout à fait les normes, il n'y a aucun danger. Mais voilà, visiblement, ça n'est pas tant. Et d'ailleurs, cette association-là, elle a vu le jour parce qu'il y avait eu des décès de travailleurs les plus exposés en fait, sur les chaînes des mines d'uranium. Il y avait aussi des inquiétudes de la part d'éleveurs qui voyaient des changements au niveau environnemental. Et là où on voit qu'il y a quand même vraiment une non-reconnaissance d'Orano, c'est que par exemple, donc il y a des services hospitaliers qu'ils ont mis en place hein, dans le cadre de l'activité minière. Et en 50 ans d'extraction, ils déclarent que 3 cas de maladies professionnelles. Où la CRIAD explique que c'est absolument sous-évalué compte tenu des relevés de radioactivité. Et donc, il y a en ce moment, donc là, je vous parlais au début d'un site, d'un gros site minier qui avait fermé, la Cominac. Et c'est vrai que toutes les questions de sa fermeture donnent vraiment à voir toutes les problématiques en fait que ça engrange. Et je vous propose d'écouter un reportage qui a été réalisé par l'association Aguirre-Inman et la CRIAD sur le sujet. Et puis, on en reparle après, mais c'est assez, assez explicite.
La fermeture de la Cominac, c'est quelque chose d'extrêmement malheureux pour la Cominac. C'est l'incompétence, si vous voulez, et l'insouciance des responsables de cette entreprise. Quand je parle de l'insouciance, c'est-à-dire c'est des gens qui ne soucient pas de ce que va devenir les milliers de personnes qu'ils vont mettre dans la rue et les milliers de jeunes qui vont manquer de leur travail. Et bon, c'est des milliers de familles. Parce qu'il faut vous dire que à Cominac, vous avez 600 travailleurs Cominac direct et vous avez 800 sous-traitants. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que la Cominac reconnaît qu'elle va donner une prime de départ ou de fermeture économique pour les 600 personnes et elle n'a pas l'intention du tout de donner à ces 800 sous-traitants.
Donc les travailleurs, les sous-traitants sont soumis aussi à ces rayonnements ionisants. Ils subissent tous les problèmes qui concernent la radioactivité, ils subissent tous les problèmes qui concernent les questions de santé, de travail, comme les travailleurs de Cominac qui sont les autres 600. Donc c'est la même chose. Pourquoi est-ce que sur le plan social, on ne doit pas le considérer que...
Les travailleurs qui sont au contact de l'uranium sont exposés à des radiations, que ce soit par inhalation de poussière, de gaz radioactif, par rapport au rayonnement gamma qui les atteint en permanence. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, on sait très bien que l'extraction de l'uranium est une des étapes qui est la plus impactante en termes d'exposition à la radioactivité pour les travailleurs et la population. Alors pour le cas de la Cominac, les propres chiffres de l'entreprise montrent des doses tout à fait significatives subies par les travailleurs, qu'ils soient statutaires ou sous-traitants. Or, en matière d'exposition aux radiations, les pathologies vont arriver dans les années, voire les décennies après l'exposition. C'est-à-dire que, par exemple, le suivi des mineurs français montre un excès de mortalité par cancer du poumon 40% au-dessus de la normale et un excès de mortalité décès par cancer des reins 90% au-dessus de la normale. Donc ces populations de travailleurs doivent être suivies d'un point de vue sanitaire dans la durée, soignées bien sûr, indemnisées. Et ça, trop souvent, lorsque les entreprises ferment, elles laissent sur le carreau ces populations de travailleurs exposés. C'est ce qu'a fait par exemple la Comuf, une des filiales d'Areva au Gabon, où plusieurs années après la fermeture, les pathologies chez les travailleurs se sont accumulées, travailleurs qui sont laissés livrés à eux-mêmes.
Nous appelons les autorités nigériennes, les autorités françaises, les autorités d'Areva, les autorités d'Orano, à faire quelque chose pour les sous-traitants. Ces gens ont été exposés comme les autres. Voilà ce que nous voulons dire, en tout cas à l'opinion nationale et internationale. Et nous interpellons toute conscience normale à agir pour essayer de venir en aide à ces, bien sûr, à ces sous-traitants.
Alors, on vient d'écouter un reportage qui a été fait par l'association Aguirre-Inman et la CRIRARD. Acrihard. Je voulais vous demander, en fait, est-ce que ces enjeux-là, donc qui tournent autour de l'extraction de l'uranium, des enjeux aussi d'impérialisme, est-ce que c'est des choses qui sont traitées aussi dans les luttes nationales et locales autour de l'antinucléaire ?
Oui, en partie, mais certainement pas au niveau où ça devrait le faire. Mais il faut déjà qu'on réalise que notre confort se fait au détriment de populations souvent nomades, que ce soit au Niger, au Kazakhstan, les aborigènes d'Australie ou les Inuits du Canada. Mais on en parle, mais on devrait en parler encore plus.
Et je pense aussi qu'on en parle même dans les événements antinucléaires ou les camps qui peuvent se passer, où on essaye d'inviter des gens justement à parler de ces questions-là, parce que c'est quelque chose qui est loin de nous, mais finalement qui nous concerne directement. Et du coup, à ce sujet-là, il y a aussi un film d'Amina Ouera qui s'appelle « La colère dans le vent », et qui est un très bon film et qui parle de ça de façon assez sensible, où elle va dans sa famille à Arlit et elle va montrer justement les effets sur la santé des travailleurs dans les mines d'uranium, et avec tous les mensonges d'Areva qui vont avec, quoi, qui les envoient dans des hôpitaux, qui vont dire non, il n'y a rien du tout, ça n'a rien à voir avec l'uranium, alors que toutes les études après prouvent bien que ça a un lien clairement avec ça.
Et pour faire le lien avec les travailleurs du nucléaire en France, il faut savoir que 80% de la maintenance se fait avec des entreprises sous-traitantes, donc avec des travailleurs précaires et qui reçoivent 80% de la radioactivité, et qui ne se sont, comme les travailleurs du Niger, ne sont très peu suivis après leur travail dans le nucléaire.
Eh ben, merci beaucoup à nos deux invités, donc Olive et Philippe, pour vos interventions, pour vos détails qui nous ont permis de dresser un tableau assez noir de ce qu'est aujourd'hui le nucléaire en France, comment ça fonctionne et quels en sont les dangers. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci bien sûr à Claire Lee qui m'a accompagnée dans l'animation de cette émission et à la technique avec Samia et Jeanne. On finit cette émission avec la Java des bombes atomiques, la fameuse chanson de Boris Vian. Comme un petit rappel des risques qui a joué aux apprentis sorciers avec l'atome. Petit rappel, si tant est qu'il soit nécessaire. Belle journée à toutes et à tous.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement.